Ça marche. Très bien. Donc cette lettre répond en fait à des questions pratiques des chrétiens de Corinthe. Ils avaient des questions, on n'a pas les questions, mais on voit que Paul, à chaque fois, il dit concernant ce que vous m'avez demandé. Et il y a plusieurs thèmes très pratiques. Et 1 Corinthiens 12 à 14, c'est le thème des dons spirituels en particulier et de notre relation avec le Saint-Esprit. Paul, dans cette lettre aux Corinthiens, répond donc à des questions, mais en même temps, il corrige des mauvais comportements parce que l'Église de Corinthe tolérait, sans rien faire, parce qu'il manquait de discernement spirituel, il tolérait des comportements inacceptables. Il dit même chez les païens, on ne se comporte pas comme dans votre Église. C'est-à-dire, et je peux vous dire, les païens à l'époque, c'était quelque chose. Hein. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de pureté comparé au paganisme romain. Hein. Et donc, il va corriger des mauvais comportements, notamment sur la spiritualité, comment être spirituel dans l'Église. Alors, le premier verset de 1 Corinthiens 12 dit: Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Et dans l'original, il dit pour ce qui concerne les spirituels. Il n'y a pas le mot don, mais dans le contexte, on voit bien qu'il s'agit de ces dons que le Saint-Esprit nous a donnés. Et il faut bien clarifier les choses, et j'aimerais profiter de ces enseignements pour clarifier les choses par rapport au Saint-Esprit. Il y a d'abord le don du Saint-Esprit qu'on trouve en Actes 2, 38. Est-ce que quelqu'un voudrait lire ce verset à haute voix? Acte 2, 38. Le don du Saint-Esprit. Peu importe votre version. Hein. Voilà, vous recevrez le don, le cadeau du Saint-Esprit, c'est-à-dire lorsque vous vous repentez, lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous recevrez le Saint-Esprit comme un don. On ne paye pas le Saint-Esprit, on ne l'achète pas, on ne le mérite pas. C'est un cadeau. Lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, on reçoit son esprit. Ça s'appelle le don du Saint-Esprit. Voilà, d'accord pour ça? Maintenant, il y a une autre chose, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Alors ça se trouve en 1 Corinthiens 12, 13, on le verra tout plus tard, mais je vais vous le lire. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez le sens du mot baptisé chez les Grecs? Ça voulait dire quoi? Immerger, plonger. Donc il ne faut pas mettre baptisé, c'est un mot qui nous trompe là. On pense au baptême d'eau, etc. Non, vous avez été immergé dans le Saint-Esprit. Pourquoi faire? Pour former un seul corps. Donc, il y en a qui ont fait une doctrine de ça, qu'ils appellent la doctrine du baptême du Saint-Esprit. Or, c'est le seul verset dans le Nouveau Testament ou dans la Bible qui parle d'être baptisé dans le Saint-Esprit. En fait, c'est une image. Paul veut dire, quand vous avez cru, vous avez été immergés dans le Saint-Esprit tous ensemble. Et c'est une image. Il n'est pas en train de faire une doctrine sur le baptême du Saint-Esprit, ou il n'est pas en train de parler d'une expérience qu'il faut rechercher. Parce que malheureusement, en faisant une doctrine, il y a des gens qui ont dit, bon, maintenant que tu t'es converti à Jésus-Christ, que tu as cru, maintenant tu dois rechercher le baptême du Saint-Esprit. Nulle part dans la Bible, c'est écrit qu'il faut rechercher le baptême du Saint-Esprit. Deuxièmement, en ce verset, le seul verset qui en parle, il dit, nous avons tous été baptisés. Donc il n'y a pas à le chercher si on est tous baptisés. Et à quel moment on a été baptisés du Saint-Esprit? Quand on a cru. Voilà. C'est ça. L'Église a été baptisée du Saint-Esprit à la Pentecôte, les premiers chrétiens, et nous, chaque fois que quelqu'un dans le monde reçoit Jésus-Christ, il est plongé avec les autres, en fait. On est dans une sorte de bain. C'est un peu ça l'idée, hein. On est dans un bain, et au lieu que ce soit l'eau, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Et tous ceux qui ont Christ ont le Saint-Esprit et sont baptisés du Saint-Esprit. On n'a pas besoin de rechercher ça. Ça fait partie du don du Saint-Esprit, en fait. Mais ça a un but. C'est pour former un seul corps, et là, ça va être le but de son enseignement après. Donc, le don du Saint-Esprit, être baptisé, plongé dans l'Esprit. Troisième, le fruit de l'Esprit. Quelqu'un nous lit Galates 5, 22. Même, vous pouvez le réciter par cœur. Galates 5, 22. Voilà, 9 grains hein, du Saint-Esprit. Mais je ne pense pas que ce soit une liste exhaustive. Je pense qu'il y a plein d'autres fruits du Saint-Esprit. Il a mentionné ceux qui lui venaient là. Mais ce sont des fruits qui viennent du Saint-Esprit. Ça veut dire que quand on a le Saint-Esprit, ces choses apparaissent dans notre caractère. Quand on reste près de Dieu, bien sûr. Hein. Ce n'est pas automatique, il faut rester près de Dieu. Mais le Saint-Esprit produit un fruit. Et d'ailleurs, c'est au singulier un fruit qui est fait d'amour, de joie, de paix, de bonté, de douceur. Tout ça, on ne peut pas le produire soi-même, ça doit venir du Saint-Esprit. Donc, il y a le don du Saint-Esprit quand on croit en Jésus-Christ. Il y a le plonger dans le Saint-Esprit quand on croit en Jésus-Christ. Il y a le fruit du Saint-Esprit qui sort de nous quand on est avec le Saint-Esprit. Et puis, il y a la plénitude de l'Esprit. Hein? Éphésiens 5, 19. Si quelqu'un... 18, comme ça, quelqu'un a Éphésiens 5, 18. Voilà, soyez remplis, et là c'est au pluriel, soyez ensemble, hein, remplis du Saint-Esprit. Donc, baptisé dans l'Esprit, ça c'est quand on a le Seigneur, quand on est sauvé. Mais rempli du Saint-Esprit, c'est un commandement. Et comment on fait ça? Ben, il le dit dans la suite, verset 19, en s'entretenant ensemble par des psaumes, des hymnes, des cantiques, en chantant de tout son cœur les louanges, en rendant grâce à Dieu, en se soumettant les uns aux autres. C'est comme ça qu'on est rempli du Saint-Esprit tous ensemble. C'est en pratiquant ces choses. D'où l'importance, hein, c'est pour ça que le dimanche et les autres jours possibles, on se réunit pour chanter, pour louer le Seigneur, pour prier ensemble, pour s'édifier, s'aimer. Ça fait partie de la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas une sorte d'expérience où d'un seul coup, je ne sais pas, vous vous mettez à prophétiser ou à faire des miracles, je ne sais pas, non. La plénitude du Saint-Esprit, c'est dans l'Église, c'est avec les frères et sœurs, et c'est quand on est plein de Dieu, en fait, c'est ça, hein, on est rempli de Dieu. Donc, on a vu ces choses, maintenant il y a le dernier dont on va parler en 1 Corinthiens 12 à 14, il y a les dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas le don, c'est les dons, et c'est un mot en grec qui est charisma, qu'on peut traduire par charisme. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire charis en français? Charis, ça veut dire la grâce. C'est la façon dont se saluaient les Grecs. Ils disaient charis. Les Juifs, ils se saluaient comment? Shalom. Et c'est pour ça que dans beaucoup d'épîtres, vous avez que la grâce et la paix. Que la charis et la shalom. Ça voulait dire, comme il y avait des Grecs et des Juifs dans l'Église, hein, que la grâce pour les Grecs et que la paix pour les Juifs vous soit donnée de la part du Seigneur. Donc, le mot charisme, ça veut dire que c'est simplement une grâce. Un don gratuit. Grâce, ça veut dire gratuit, en fait. Hein. Gracieux, c'est gratuit. Quelque chose qu'on ne mérite pas. On n'a pas à faire des efforts pour l'avoir. C'est un don qui va avec le Saint-Esprit aussi, que le Saint-Esprit distribue. J'espère que vous arrivez à suivre jusque-là. Verset 2 de 1 Corinthiens 12. Vous savez que lorsque vous étiez des païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Alors, beaucoup des chrétiens de Corinthe venaient de la religion païenne. C'est pas simplement qu'ils n'étaient pas juifs, c'est qu'ils avaient, ils étaient nés dans la religion païenne. La religion païenne, c'est toutes ces divinités, ces temples. Et en Grèce, et même à Rome, il y avait beaucoup de débauches autour de la religion païenne. Il y avait des orgies religieuses. Il y avait des prostituées religieuses. À Corinthe en particulier, il y avait un temple où des femmes se prostituaient pour la divinité. Et donc les clients venaient et en couchant avec la prostituée, ils faisaient un acte spirituel. Je ne sais pas si vous voyez la perversité de la chose dans la religion païenne. Ils avaient une quantité, une pléthore de dieux. Plus ils avaient de dieux, plus ils se sentaient rassurés. Mais en fait, ils n'étaient jamais sûrs. Parce qu'ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. C'est pour ça que quand Paul va prêcher à Athènes, hein, il va dire « Vous avez fait un autel au Dieu inconnu, parce que vous cherchez à plaire à tous les dieux, ben vous avez raté le vrai, c'est lui qu'il fallait adorer, le Dieu inconnu, c'est lui le seul vrai Dieu. Et donc il dit, vous étiez conduits par des idoles muettes. Et effectivement, les divinités de la religion païenne sont muettes, c'est des statues qui ne parlent pas. Alors elles avaient par contre des oracles, les oracles c'était des sortes de prophètes qui parlait de la part du Dieu. Et donc, il y avait la plus connue, c'était la Pythie de Delphes. Donc, il faut savoir que Delphes, c'est de l'autre côté de l'isthme de Corinthe, là. C'est à 200 kilomètres de Corinthe. C'est pas très loin. Et là, il y avait un temple et il y avait une prophétesse qu'on appelait la Pythie. Ce devait être une femme, toujours. Une femme de, pure, pardon. Une femme avec des bonnes mœurs. Et on allait la consulter pour les grandes questions de la vie. Alors on arrivait avec sa lettre, on donnait la lettre à un des prêtres et il la transmettait à la Pythie et elle, pendant une cérémonie très grandiloquente avec de la fumée, des lumières, elle se trouvait dans le lieu sacré où seuls les prêtres et elle avaient le droit de marcher et les gens se tenaient au loin et elle faisait plein de gestes, plein de choses avec sa robe. Il y avait de la fumée, enfin les historiens racontent comment ça se passait, mais elle ne disait rien. Ensuite, quand elle avait fini, c'était un prêtre qui disait « Maintenant, je vais interpréter ce que la Pythie a reçu comme message du dieu Apollon. » Là, c'était Apollon. Et donc, le prêtre, il inventait, bien sûr, parce qu'il n'y avait rien à interpréter, il inventait quelque chose, et c'était une escroquerie, comme ça existe beaucoup, dans les religions humaines. L'Église, malheureusement, de Rome, a fait pas mal de mensonges comme ça, avec les statues qui pleuraient, les fausses croix, les fausses reliques, etc. Il y a eu, c'est resté. Et ça vient du paganisme, cette idée de tromper le pauvre païen. Et donc, la Pythie, et je vais vous lire ce que disent les historiens, se tient dans la partie sacrée du temple. Elle est assise sur un trépied au-dessus du gouffre. Il y avait un gouffre là, sous elle, duquel s'échappent les exhalaisons prophétiques du dieu Apollon. Et ces exhalaisons s'appelaient le pneuma. Pneuma, c'est le mot grec pour esprit. Et c'est là où il va y avoir confusion chez les Corinthiens. Ils vont mélanger le pneuma de la religion païenne avec le pneuma de Dieu, de la religion biblique. Le Saint-Esprit de Dieu et l'esprit d'Apollon. Cachée aux yeux des consultants, elle tombe en état de transe, comme possédée par le dieu. Ces oracles sont incompréhensibles pour le commun des mortels et doivent être interprétés par des prêtres qualifiés, présents à la consultation, qui remettent ensuite aux consultants une réponse écrite. Et donc, ce culte et ces oracles, les Corinthiens ont fait un mélange et ils ont pensé que dans l'Église, ça devait se passer comme ça. Qu'il devait y avoir des gens, notamment des femmes, c'est pour ça que Paul va parler aux femmes de Corinthe, qui devaient avoir des transes et dire des choses incompréhensibles, en glossolalie, et qu'il y avait des interprètes qui disaient voilà ce que Dieu dit, et ils ont mélangé la religion païenne et ils ont inséré dans la religion chrétienne. Voilà. Et donc Paul va devoir redresser et corriger tout ça, en disant, le parler en langue, c'est pas pareil que la glossolalie. Les prophéties, c'est pas rentrer en transe, etc. Il faut être dans l'ordre, il faut être ordonné. Que les femmes, il va dire à un moment, que les femmes se taisent dans les assemblées. Pourquoi il va dire ça? C'est pas parce qu'il est machiste, mais c'est parce que, justement, ces femmes se prenaient pour des pythies de Corinthe, de l'église de Corinthe. Donc le contexte, là, est très intéressant pour comprendre pourquoi il va écrire ces chapitres et pourquoi il dit ce qu'il dit. Maintenant, nous sommes au verset 3. « C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » ou « maudit ». Et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc là, ce qu'il veut expliquer, il ne faut pas se perdre dans des choses là avec ce verset, il ne faut pas être inquiet. Il est en train de dire « C'est clair, si vous avez le Saint-Esprit, vous allez dire des choses bonnes. Vous allez dire « Jésus est Seigneur ». Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez dire des bêtises. Or, il semble qu'à Corinthe, il y a des gens qui se levaient dans les assemblées en disant « Jésus est anathème ». Alors, et personne ne les reprenait. Ah ben non, il parle par le Saint-Esprit, regarde, il est en transe, tout va bien. Et donc, Paul est obligé de dire « Mais quand quelqu'un dit Jésus est anathème, ce n'est pas par le Saint-Esprit qui dit ça, c'est par l'esprit du diable. Alors pourquoi il y avait des gens qui pouvaient dire Jésus est anathème? Parce que dans la loi juive, c'est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Et pour les juifs, le fait d'être crucifié sur le bois, donc pendu, c'était une malédiction. Et c'est vrai, mais cette malédiction, la Bible l'explique. Jésus a pris la malédiction de nos péchés à notre place. Lui, il était parfait, il était saint, mais il a pris notre malédiction. Mais il n'est pas maudit lui-même, lui était parfait, il ne peut pas être maudit. Mais donc, il y avait chez certains judaïsants cette idée, de toute façon, Jésus, il est maudit. Et dans le Talmud, on retrouve beaucoup d'insultes, quasiment sur Jésus. Ils insultent, ils le haïssent profondément. Et puis, il pouvait y avoir aussi des gnostiques, dont notre frère a parlé. Chez les gnostiques, ils font la différence entre Jésus et le Christ. Et ça se trouve aujourd'hui dans le New Age encore, cette idée. C'est-à-dire, Jésus, c'est l'homme qui a été d'un jour touché par le Christ. Et le Christ est venu s'incarner en lui. Un peu comme Bouddha et l'incarnation christique, ou que Mahomet, pour certains, était une incarnation christique, etc. Donc c'est cette confusion totale. Et dans le Nouveau Testament, c'est clair, Jésus est le Christ. Il n'a pas été possédé ou pris par le Christ. Il est le Messie. Il n'y a pas d'un côté le Messie, d'un côté Jésus. Depuis sa naissance, Jésus sait qu'il est le Messie. D'abord, dans Luc, on voit, il est dit, le Saint-Enfant qui naîtra de toi. Le Saint-Enfant, il n'y a pas d'autre enfant appelé comme ça dans la Bible. C'est le seul qui était saint. Il est né miraculeusement du Saint-Esprit. Et puis même quand il était enfant, il a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Étant enfant, il dit ça, à 12 ans. Ça veut dire, il savait sa mission, il connaissait sa mission. Il n'était pas là d'un seul coup un jour, « Oh, je suis le Christ !» Non, il savait qu'il était venu mourir pour nos péchés, qu'il était l'agneau de Dieu. Mais donc, chez les gnostiques, ce n'était pas clair, et ils disaient, « Non, Jésus n'est pas le Seigneur. » Et c'est pour ça qu'il dit, pour dire « Jésus est le Seigneur, il faut avoir le Saint-Esprit. » D'ailleurs, « Jésus est le Seigneur », c'est une expression forte, ça veut dire « Jésus est Adonai » chez les Juifs. Adonai, c'était le nom pour qui ? Pour Dieu. Ça veut dire « Jésus est Dieu ». Jésus est le Seigneur, c'est Jésus est Dieu. C'est fort comme pour l'époque. C'est pas juste qu'il est le Messie, il est Dieu aussi. Bien sûr, les Juifs n'acceptaient pas ça. Mais c'est pour ça que dans l'Église, il pouvait y avoir certains Juifs qui disaient que Jésus soit le Messie à la rigueur, mais qu'il soit Seigneur. Ah non, là, c'est trop. Ils disaient non, Jésus n'est pas le Seigneur. Et là, plutôt que de reprendre ces personnes dans l'Église en disant attends, tu es dans une église chrétienne ici, Jésus est le Seigneur. Il essaie de dire n'importe quoi. Et c'était le bazar, la confusion totale. Voilà. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un a le Saint-Esprit, il va dire Jésus est le Seigneur. Mais, il y a un mais. C'est Jésus lui-même, en Matthieu chapitre 7, et vous connaissez peut-être ce passage. Verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement qui ? Ceux qui font la volonté de mon Père. Plusieurs diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Et je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. » Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est ça la chose. C'est qu'on ne peut pas être avec le Seigneur et vivre dans le péché. On ne peut pas faire soi-disant des miracles au nom du Seigneur et vivre dans le péché. Si on fait des miracles au nom de Jésus et qu'on vit dans le péché, c'est qu'on n'est pas au nom de Jésus. Parce qu'avec Jésus, il y a la pureté qui va avec, la sainteté. Et donc, encore une fois, si quelqu'un dit « Jésus est Seigneur », on peut dire « Amen, Alléluia », c'est vrai, on est d'accord. Mais où en est ta vie, au fait ? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu ? Est-ce que tu pratiques la parole de Dieu ou pas ? Parce que si tu fais n'importe quoi et tu dis « Jésus est Seigneur », prends garde, le Seigneur nous avertit. Il te dira « Je ne t'ai jamais connu » et tu seras séparé du Seigneur pour l'éternité. Alors, attention à ne pas prononcer le nom du Seigneur en vain. Nous revenons à 1 Corinthiens 12 et maintenant il va rentrer dans le vif du sujet. 1 Corinthiens 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Quel est le mot-clé là ? Diversité, voilà. Hein, c'est comme ça qu'on étudie la Bible, en regardant si un mot revient plusieurs fois. Là, on dit, ah, il y a peut-être un message pour moi là. Mais il y a une opposition là. Diversité d'un côté et puis de l'autre côté. Voilà, un seul esprit, un même Seigneur, un même Dieu. Et là, il y a eu quand même une allusion à la Trinité là. Hein. L'Esprit de Dieu, le Seigneur c'est Jésus-Christ et Dieu c'est le Père. Voilà. Il y a une allusion à la Trinité, mais il dit il y a un seul Dieu, trinitaire, qui fait toutes les opérations dans l'Église, par son Saint-Esprit. Et donc, il y a deux messages pour nous. Il y a l'idée que d'abord, c'est Dieu qui est en charge. C'est Dieu qui doit être la tête, hein, c'est Christ la tête de l'Église, c'est Dieu qui doit diriger les choses spirituelles. Nous, même les pasteurs, hein, nous sommes sous le Seigneur et nous devons suivre le Seigneur. Mais c'est lui qui doit diriger. Christ est vivant. Il n'est pas parti au ciel en disant « Bon, les gars, débrouillez-vous ». Non, il est parti au ciel et il nous a envoyé son esprit qui agit, qui parle, qui touche. Justement, ce n'est pas une idole muette, le Seigneur. Il n'est pas muet, il parle. Il nous a laissé la parole de Dieu qui parle encore. Il nous a laissé son esprit qui nous accompagne, qui est avec nous, qui nous parle dans notre cœur, dans notre conscience. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais, en même temps, il fait plein de choses diverses. Il ne faut pas chercher à voir une église où tout le monde est pareil. Une sorte de clonage, hein, chrétien. C'est ce que font souvent les sectes. Dans les sectes, pour que tout le monde obéisse au chef humain, il faut que tout le monde soit formaté. Hein, formatage, Windows, tout le monde sous Windows. Tout le monde doit être pareil et se comporter pareil et dire la même chose. Or, dans l'Église, il y a diversité. Le Saint-Esprit sait qu'on est unique, on est chacun. Il n'y en a pas deux pareils, même si on est tous différents. Et il donne des dons différents à chacun. Et chacun a une part différente dans l'Église. Et chacun peut apporter quelque chose aux frères et sœurs, au corps. C'est la diversité, mais dans l'unité. C'est malheureusement ce que l'Église n'a pas pratiqué. L'Église a pratiqué, à partir du IVe siècle, l'unité hiérarchique, avec la pyramide. C'est-à-dire, vous avez le chef en haut et tout le monde doit obéir. Alors que dans l'Église, là, c'est la diversité. C'est horizontal, c'est pas vertical, hein. Et c'est les chrétiens remplis du Saint-Esprit qui s'édifient. Et c'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église, voilà, et qui conduit les choses, mais pas n'importe comment. Parce que chez les Corinthiens, c'était le bazar. Hein, c'est le mot. Il n'y avait pas d'unité. C'était Jésus est Seigneur, Jésus est maudit, les gens en transe, les gens qui disaient, on ne comprenait pas ce qu'ils disaient. Il faut de l'ordre, il faut une unité. Il faut que ce soit Dieu qui dirige. Quand c'est Dieu qui dirige, il y a une unité. On travaille tous dans la même direction. Et la meilleure image, c'est l'image de l'orchestre. Hein, l'orchestre symphonique, en particulier. Vous avez des dizaines d'instruments différents. Chaque instrumentiste, il a sa personnalité, il a son talent à lui, son interprétation. Mais tout ça est mis ensemble par le chef d'orchestre qui est, non pas le pasteur, mais le Saint-Esprit. Et qui fait travailler le morceau. Le morceau, c'est quoi ? C'est la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et tous ensemble, c'est comme une seule voix qui monte vers le Seigneur. Il y a une unité. Tous les instruments jouent au bon moment. Il n'y en a pas un qui dit « Tiens, ben non, moi, je ne vais pas jouer à la mesure 25, moi, je vais jouer à la mesure 27. » Ben non, attends, là, on est un groupe. Il faut se soumettre au groupe. Mais le but, c'est de glorifier l'auteur de la partition, c'est-à-dire notre Dieu. Le pasteur ou les pasteurs pourraient être, à la rigueur, si on utilise cette image, celui qu'on appelle le premier violon. Le premier violon, c'est celui qui, en général, donne le « la » au début. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà été à des concerts, un orchestre symphonique, il fait « puis tout le monde se cale sur le premier violon. Mais à part ça, c'est le Saint-Esprit qui doit conduire. Donc, est-ce qu'il y a une question là, jusque-là ? Alors le but, c'est l'édification, vraiment, de bâtir ensemble et de se bâtir, de s'édifier. Alors ici, il parle de dons de grâce. Il y a diversité de dons spirituels, diversité de ministères. Ministère, c'est le mot service. On se sert les uns les autres. Il y a diversité d'opérations, c'est des actions de Dieu dans les cœurs. Mais c'est Dieu qui y fait tout. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour quoi faire ? Pour l'utilité commune. Ça, c'est très important. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas pour soi. Ce n'est pas pour mon plaisir personnel à la maison. Ah, c'est super ce don du Saint-Esprit, je me régale à la maison tout seul. Non. Les dons du Saint-Esprit sont pour être pratiqués, pour être utiles aux autres. Aux autres. Ça nous montre l'importance de se réunir entre frères et sœurs. Si je ne me réunis jamais avec mes frères et sœurs, mon don ou mes dons spirituels ne vont jamais être pratiqués parce que je suis tout seul à la maison. Et je ne recevrai jamais les dons des autres. Je ne serai pas édifié par les autres puisque je suis tout seul à la maison. Voilà. C'est quand même important de se réunir. On voit que les premiers chrétiens, dans le livre des Actes, c'était tous les jours assidus au temple. Ils étaient dans la fraîcheur, la ferveur de la résurrection du Seigneur et ils ne pouvaient pas se passer les uns des autres. Ils étaient tous les jours au temple. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on doit obéir mot pour mot à ce verset, mais c'est pour dire que quand on se réunit, il y a un but. On ne se réunit pas pour dire, là, on est réunis, voilà, mes chers amis, première session, de l'Énan. On se réunit pour que les dons du Saint-Esprit se manifestent à travers nous et nous édifient. Les charismes sont pour les autres et pas pour soi-même. Les charismes doivent servir et édifier. Et ça veut dire que c'est un esprit d'humilité et d'amour. Quand on sert les autres, c'est forcément parce qu'on est dans l'humilité et dans l'amour. On ne peut pas servir avec orgueil. Ou alors, on n'a rien compris. Mais l'orgueil n'a pas de place dans le corps de Christ. Normalement. Et l'ego aussi. Qu'est-ce qui fait tant de problèmes dans les réunions de toutes les églises du monde, de tous les temps? C'est notre ego. Et notre ego, il est appelé dans la Bible la chair, c'est-à-dire c'est notre nature égoïste et orgueilleuse et pécheresse, égocentrique, qui veut ramener tout à elle et qui veut dominer, qui veut avoir raison, qui veut ceci, qui veut cela, au lieu de servir, au lieu d'aimer. Voilà, le chrétien n'est pas dans l'ego, le chrétien ne cherche pas à dominer, à plaire ou à faire valoir quoi que ce soit. Le chrétien, il cherche à glorifier Dieu d'abord et il cherche à servir ses frères et sœurs parce que c'est ça l'esprit de Dieu qu'on a en nous, c'est un esprit d'amour et de grâce. C'est-à-dire bien sûr, on a le Saint-Esprit partout, et cet Esprit se manifeste partout, comme ça, oui. Tout à fait. Oui. Oui, le Saint-Esprit est toujours le même, et on doit être rempli du Saint-Esprit partout. Même si on est tout seul chrétien là où on est, on doit manifester cette grâce de Dieu. On arrive au verset 8 à 10, où il va donner une liste de dons. On ne va pas trop rentrer en détail aujourd'hui parce que le temps passe, mais on va lire déjà le verset 8 à 10. En effet, à l'un est donné par l'Esprit, donc toujours par l'Esprit, une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut. Donc il y a plusieurs choses à noter. D'abord, ce que Dieu veut nous montrer là, c'est que c'est un même Esprit qui fait tout. Donc si nos dons se contredisent, s'il y a division, c'est que ce n'est pas par le Saint-Esprit. On n'est pas dans le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, il y a unité. Il y a amour. On va dans la même direction. Donc si on se contredit, c'est un test pour dire « Ah, il y a un problème là, de don. Ton don n'est pas, ou mon don n'est pas... » n'est pas par le Saint-Esprit. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il distribue les dons à chacun en particulier. Donc tous les chrétiens peuvent avoir ou ont des dons spirituels. Encore une fois, on a gardé ce côté hiérarchique où ce sont les serviteurs de Dieu, les pasteurs qui font tout, et le chrétien est spectateur et il écoute, il suit et il attend que ça se passe. Et ce n'est pas ça la manifestation du Saint-Esprit dans l'Église. Dans l'Église, chacun a un don spirituel. Les pasteurs ont des dons spirituels et les chrétiens ont des dons spirituels. Alors il y a au moins trois listes de dons spirituels dans le Nouveau Testament. Une première liste se trouve en Romains 12. Versets 6 à 9. Alors, pouvez-vous me dire quels dons sont mentionnés là? Sans lire le passage, mais... Romains 12, 6 à 9. Non. Oui, 6 à 9. Prophétie. Ministère. Enseignement, exhortation, libéralité. Alors, président, ça veut dire en fait direction. Hein, c'est un don de leadership ou de direction. Et miséricorde. Ça fait 7, hein, c'est un beau chiffre, le chiffre du Seigneur. Là, il donne 7 dons que les chrétiens reçoivent du Saint-Esprit et qu'ils doivent pratiquer. D'accord ? Maintenant, il y a Éphésiens 4, verset 11. Alors là, ce ne sont pas des dons eux-mêmes, ce sont des personnes qui sont données, à l'Église, des apôtres, prophètes, évangélistes et des pasteurs, docteurs, pasteurs enseignants en fait, hein, pasteurs enseignants de la Bible. Donc ça, ce sont des dons aussi. Ce sont des personnes qui ont des dons particuliers pour former, édifier le corps de Christ. Notamment les évangélistes sont ceux qui vont planter les églises, sont des missionnaires. Hein. Les pasteurs docteurs sont eux qui vont enseigner les chrétiens pour, il dit après, hein, pour le perfectionnement des saints. Donc ils vont former les chrétiens à devenir eux-mêmes des serviteurs de Dieu. Voilà. Les apôtres, c'était pour le début de l'église. Les prophètes, c'était pour le début de l'église. Plus besoin d'apôtres, prophètes, on est passé à autre chose. Mais on en reparlera. Troisième liste, 1 Pierre 4, donc première épître de Pierre, chapitre 4, versets 10 et 11. 1 Pierre, chapitre 4, versets 10 et 11. Donc, il dit qu'on doit être des bons dispensateurs des grâces de Dieu, des charismes. Hein. On doit bien les distribuer, ces dons. On doit bien les pratiquer. Et quoi en particulier ? Verset 11. Ben, ceux qui parlent dans l'Église. Ceux qui parlent. Ça, c'est un don de parler dans l'Église. Ceux qui servent, puisque ministère, ça veut dire servir. Et voilà. Voilà, pour glorifier toujours le Seigneur. Et en fait, ces deux points, c'est intéressant, on va les retrouver dans 1 Corinthiens 12. Il y a des dons de parole et des dons de service. Puis aussi, il y a des dons miraculeux après, hein, des dons signes. Mais il n'y a pas une liste complète des dons. Il n'y a pas un chapitre qui dit « Voilà maintenant tous les dons de A à Z ». Non, le Saint-Esprit est assez varié. Regardez le nombre d'espèces de fleurs, d'insectes, d'animaux. C'est infini quasiment. On ne peut pas les compter. Le nombre d'étoiles, de galaxies, on ne peut pas les compter. À quoi elles servent ces étoiles? À quoi elles servent ces fleurs? À quoi ils servent tous ces insectes? On se demande. Mais parce que Dieu est comme ça. Dieu, il est généreux, il est varié. Et donc, le Saint-Esprit dans l'Église, il est pareil. Il n'est pas limité, il ne va pas dire, voilà, il y a 15 dons, 5, il n'y en a pas un de plus, pas un de moins. Non. Il y a une infinité possible de choses et on peut avoir des dons combinés, et les dons même ne sont pas dans une boîte. Voilà, on ne peut pas faire des boîtes où on dit, voilà, c'est comme ça. Ça, c'est les hommes qui font ça, mais le Saint-Esprit est beaucoup plus libre. Mais le but du Saint-Esprit, c'est que Dieu soit glorifié et que l'Église soit formée, édifiée, fortifiée, voilà, purifiée, exhorter, consoler. C'est ça le but du Saint-Esprit. Et nous, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous, on travaille avec Dieu. On est sur un chantier. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à un chantier d'archéologie. Mais c'est passionnant. Moi, je ne l'ai pas fait, mais je m'intéresse beaucoup à l'archéologie. Donc, je vois comment ça se passe. Mais vous êtes là pendant 2 semaines, des fois. Vous avez des tâches ingrates, mais alors ingrates de chez ingrates. C'est-à-dire, vous êtes là, on vous dit, toi, tu as ce carré de 25 cm de côté et tu vas gratter toute la journée. Vous êtes là avec une brosse à dents et un petit truc et vous grattez toute la journée. À la fin de la journée, vous avez mal à la tête, vous ne voyez plus rien, mais vous êtes heureux. Parce que quand vous avez trouvé un petit truc là, ah, j'ai trouvé! Bon, et en fait, votre recherche sert à tout le chantier, en fait. Et l'archéologue qui conduit tout ça, il a besoin de ces jeunes, hein. Souvent c'est des jeunes, hein, parce qu'il faut avoir la santé pour travailler comme ça, couché ou accroupi. Et quand on fait une découverte, tout le monde reçoit la gloire quelque part. Hein, voilà. Eh bien l'Église, c'est un peu ça, le Saint-Esprit conduit, on a des tâches, chacun des dons, et le Seigneur est glorifié, l'Église est magnifiée et encouragée par cela. Donc voilà le but des dons spirituels, voilà le but de ces chapitres. Et on va continuer, on va aller un peu en détail dans les dons qu'il liste ici, toute la semaine prochaine, Dieu voulant, et que le Seigneur nous guide dans cette étude et lecture. Et si vous avez des questions, voilà, je me tiens à votre disposition. Oui, il y a une question, Manon ? Oui. Oui. Voilà. C'est ça. Oui. Voilà. Oui, c'est une très bonne distinction que tu fais. Le fruit de l'esprit, on doit avoir tout le fruit, tous. On doit tous avoir l'amour, la joie, c'est pas réservé. Par contre, les dons spirituels, c'est distribué selon les besoins. Donc on n'a pas tous les dons, chacun. Par contre, une église doit avoir tous les dons, si possible. On a tous au moins un don spirituel. Ah oui, ça c'est obligé. Ah oui, c'est sûr. Et parce que sinon, ça ne sert à rien que tu viennes à l'église si tu n'as pas un don qui va édifier. Si Dieu te met dans l'église, c'est que tu as un don spirituel. Après, il faut savoir lequel. C'est le Saint-Esprit qui décide. Hein. Et comment le sait-on? C'est quand on sert le Seigneur. En servant les autres, on découvre, ou les gens nous disent, tiens, toi, t'es vraiment bien pour... voilà. Par exemple, vous allez avoir un don, le don de parole de sagesse. Sans le savoir, quand vous parlez aux gens, et vous leur faites du bien spirituel, vous les encouragez à avancer. Et c'est les gens qui vont vous dire, dis donc, ça m'a fait du bien ce que tu m'as dit l'autre jour, ou ce verset que tu m'as cité, etc. Ah bon, je ne savais pas. Et vous allez découvrir que vous avez peut-être ce don. Voilà. Certainement, il distribue de façon, justement, selon les besoins, donc effectivement. Et puis en général, il y a des dons qui sont plus importants, plus utiles, voilà. Comme justement les paroles de sagesse ou la foi ou la miséricorde, toutes ces choses sont très très importantes dans l'Église. Et c'est ça. Oui, mais Paul le fait. Il fait une hiérarchie. Et ce n'est pas une hiérarchie des chrétiens, c'est une hiérarchie des dons. Il y a des dons plus importants. Comme il dit, la prophétie, par exemple, c'est plus important que le parler en langue. Oui. Oui. Voilà. Mais on verra, parce qu'il dit, il a donné à ceux qui sont les moins en vue, les dons les plus importants. En fait, Dieu a une façon de faire qui est équitable. C'est pas parce que vous êtes pasteur que vous avez les meilleurs dons, par exemple. Ou c'est pas parce que vous êtes un chrétien très humble, très modeste, très discret, que vous n'avez pas un don important ou utile. Donc, encore une fois, c'est Dieu qui décide, c'est pas les hommes qui décident, toi tu vas avoir tel don parce que ta tête me revient bien. Non, c'est le Saint-Esprit, et souvent c'est pour nous garder humbles qui fait ça. Oui, où chacun tient l'autre, hein. On a besoin les uns des autres de toute façon. Hein. Oui, oui, il y a des... Oui. Oui. Du feu de l'esprit, oui.
Voilà, Jésus.
Oui, bien sûr.
Et voilà, et je sais que pendant le baptême, nous sommes baptisés en l'eau.
Oui.
Immergés.
Oui, immergés dans l'eau.
Mais comment comprendre le don, parce que normalement, Dieu nous a donné l'Esprit Saint pour, voilà, les vers 13 concernent.
Non, justement, il ne faut pas penser baptême. Il faut penser plonger. C'est le mot plonger. Il faut enlever l'idée d'un baptême.
Ouais.
Ah, alors ça, on le voit notamment dans Éphésiens 1, 3, où il dit, vous avez entendu l'évangile, vous avez cru et vous avez reçu le Saint-Esprit qui était promis. Voilà, bien sûr. C'est au moment où on croit qu'on reçoit l'esprit de Jésus, en fait. C'est l'esprit de Christ. Quand on reçoit Christ, on reçoit son esprit. Donc c'est avant le baptême de l'eau. Oui, on reçoit le Saint-Esprit. Et en recevant le Saint-Esprit, on est immergé dans l'Église. On devient un membre du corps de Christ. Oui. C'est quand on reçoit le Seigneur, on est baptisé dans l'Esprit aussi, et on fait partie du corps. On devient un membre du corps à ce moment-là, tout de suite. Pas besoin d'être baptisé pour être membre du corps. Par contre, le baptême, c'est souvent lié, le baptême d'eau, cette fois-ci, avec d'être membre de l'Église locale. Voilà. Mais on est membre du corps de Christ, c'est-à-dire l'ensemble de tous les croyants. Baptisé. Oui, il faut être baptisé, bien sûr, c'est important. Voilà. Mais c'est un signe, simplement. Si vous avez d'autres questions, je peux répondre après. On peut chanter les dernières strophes de Dieu Tout-Puissant.